Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h.
L'amour en héritage.
Sidonie Bonnec.
Rabbi Jacob, la boum, le grand blond avec une chaussure noire, la chèvre, le dîner de con, et j'en oublie. Ce sont d'immenses succès du cinéma français. Ils ont un point commun. La musique est signée Vladimir Cosma, que nous recevons avec grand plaisir dans la curiosité. Bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir Sidonie.
Bonsoir Vladimir.
Bienvenue, vous donnez deux concerts exceptionnels au Grand Rex les 24 et 25 octobre prochains. On en parlera tout à l'heure. D'abord, on va raconter l'histoire de ces films, quelques-uns de ces films. La Boum, par exemple, votre plus grand succès en nombre d'entrées au cinéma, peut-être, et pourtant, vous avez failli.
En nombre d'entrées au cinéma, non. Peut-être en nombre de disques.
Mais ça, c'est sûr.
En nombre d'entrées
au cinéma, cassettes même.
C'est peut-être le Rabbi Jacob. Ou en nombre d'entrées.
Oui, bien
en
sûr.
En nombre de disques, c'est différent.
En nombre de disques, c'est Reality,
c'est sûrement
la chanson titre de la Boum.
Curieusement, Diva, par exemple, c'est un énorme succès de disques aussi dans le monde entier. Mm-hmm. Mais c'est moins flamboyant et moins connu que Reality, que la Boum, etc.
Et pourtant, vous avez failli ne jamais travailler sur ce film. Pourquoi ?
Mais parce que, si vous voulez, quand on m'a proposé ce film, je me rappelle, j'étais à Saint-Jean-Cap-Ferrat en vacances, je prenais deux semaines de vacances en me préparant d'écrire la musique de l'inspecteur, la bavure et le coup du parapluie qui tombait en même temps, qui étaient des films très populaires et comme ça. Et on m'envoie le scénario de la Boum pour le lire et j'avais l'impression que c'était trop tard. J'avais fait les premiers films de des jeunes, des premiers amours des jeunes, des Zozo, tout ça, de Pascal Thomas. Où il y a eu toute une série de films, à nous, les petites Anglaises, tout ça, qui parlaient de la jeunesse et tout ça. Ça a marché bien un certain temps. Et puis tout d'un coup, ça a commencé à baisser. Et il y a eu des énormes échecs, tous vedettes ou d'autres films comme ça qui n'ont plus du tout marché. Donc je me suis dit, bon ben ça y est, c'est
vous pensiez que c'était plus à la mode, ces films-là. Voilà. Alors qui vous a convaincu finalement?
Qu'est-ce qui m'a convaincu? C'était un téléphone d'Alain Poiré, après que j'ai refusé le film, parce qu'en fait la musique devait être faite par Paul Naref, qui était en Amérique et tout ça, il n'a pas pu le faire et tout ça. Et puis il tournait une semaine plus tard, et devant mon refus, je reçois un coup de téléphone d'Alain Poiré, le producteur du film, qui me dit comme un ordre: Vladimir, vous n'êtes pas là pour faire uniquement les grands films à la Gaumont, on a un petit film sans vedette, sans rien du tout, mais on a besoin de vous, faites-le, on tourne dans une semaine, faites-nous une maquette ou quelque chose du thème principal, on doit faire une scène où on danse sur la musique.
C'est donc génial l'histoire d'un sujet. Est-ce que l'inspiration est venue facilement?
L'inspiration est venue aussi assez facilement, parce que je devais partir à la plage.
Ouais. C'est ça, parfois.
Je me suis mis à écrire à 9h du matin. J'avais mon piano Wurlitzer sur moi dans le coffre de la voiture. J'essayais des thèmes et tout d'un coup, je me suis dit, bon, ça y est, je tiens le truc. Je dois partir, il faisait beau.
Et ça donne un tube. Alors là, j'ai l'image de Sophie Marceau, forcément, un slow langoureux. Sophie Marceau, tiens, qui sera l'invitée de Stéphane Bern demain dans À la Bonne Heure, entre 11h et 12h30, pour son film Tu veux ou tu veux pas, où elle partage l'affiche avec Patrick Bruel.
Et pourtant, Vladimir Cosma, au début, cette chanson, personne n'en veut, il n'y a aucune radio qui n'en veut.
Absolument, absolument. C'était un refus total. D'ailleurs, c'était la première fois où je faisais une musique de boîte de nuit, de danse. Ouais, j'ai pas la tête à fréquenter les boîtes de nuit, j'ai jamais mis les pieds, et d'autant plus en anglais. Et en plus, dans mon idée, je devais pas prendre un chanteur connu, je voulais trouver la voix du film, quelqu'un d'inconnu. Je voulais pas qu'on dise, tiens, c'est Johnny Hallyday qui chante, ou c'est un tel qui chante. Je voulais une voix qui soit la voix du film, donc je cherchais un jeune chanteur mais qui n'ait pas trop de voix non plus, parce que je ne voulais pas qu'il fasse crooner. Ouais, je voulais une voix un peu blanche comme ça, comme un instrument. J'avais en idée Michael Franks à l'époque. Puis je suis tombé sur un jeune anglais qui vivait à Paris, qui était Richard Sanderson. Je l'entends, je me dis, ça y est, voilà ce qu'il me faut. Mais enfin, pour les maisons de disques, c'était personne, parce qu'il n'y avait aucun nom. C'était...
Et pour les radios non plus. Qui la programme en premier?
Écoutez, qui la programme en premier, c'est une chose assez curieuse, parce qu'en fait, j'avais une copine qui travaillait chez RTL, qui était l'assistante de Drucker à l'époque. Et j'appelle, je dis, écoutez, c'est une catastrophe, personne ne veut la programmer, etc. Comment je peux faire? Est-ce que tu peux pas voir? Bon, il me dit, bon, je vais parler avec Michel, voir ce qu'il peut faire. Et il dit, bon, je peux inviter Cosma dans deux émissions. Une, c'était dans un car où on vous truquait la voix et le public devait reconnaître le personnage comme ça. Ni je peux la passer dans cette émission et vendredi, on fait avec Labro une autre émission sur le cinéma. Il peut passer cette chanson-là. Donc c'était sur RTL. Ça se passe comme ça, les gens reconnaissent tout. Je fais l'émission vendredi, on la passe une fois et le lendemain, samedi, ça a été, je reçois des coups de téléphone de Chandisque, de Lido Musique. Ils me disent, monsieur, qu'est-ce que c'est que cette musique? On demande 200 disques, on nous a demandé ce matin de ça.
Sans compter que le standard RTL a explosé, c'est ce qu'on raconte encore dans les couloirs d'RTL.
Oui, ça a été, ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Donc lundi, j'étais appelé par Monique Lemarcy, célèbre chef de la programmation et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti comme une espèce de fusée atomique.
À quel point le succès de cette chanson, Reality, de votre chanson, a compté dans le succès du film, La Boum?
Bah, écoutez, je crois que ça a beaucoup compté, puisque dans des pays comme l'Italie, par exemple, la chanson a été un numéro un dans les charts pendant un an avant que le film sorte et on l'a sorti une fois l'explosion de la musique. Au Japon, pareil. Quand en France, le film a très très mal démarré, très très peu, il a
fait remonté une carrière après, sur le long terme aussi.
Sur le long terme, et avec la chanson, je crois que ça a beaucoup beaucoup compté.
Autre succès mythique, autre chanson mythique, la danse de Rabbi Jacob. On se la réécoute?
Composer une musique comme celle-là, celle de Rabbi Jacob, Vladimir Cosma, est-ce que vous sentez que ça va être un succès?
Écoutez, je sens pas, mais je fais de mon mieux. Vous savez, je pense pas au succès. Le succès me semble quelque chose de normal. Vous savez, nous, les artistes, on travaille pour le public, pour avoir du succès. C'est l'insuccès qui me semble quelque chose d'étrange et qui me bouleverse, parce que c'est donc, si vous voulez, quand je fais quelque chose, je pense pas, je dis ça va faire un succès ou non, je fais quelque chose qui me touche moi-même, qui me semble qui va toucher les autres, et voilà, c'est le seul critère.
Et ce sera un immense succès. Il faut que vous nous racontiez, dernière anecdote sur Rabbi Jacob, la réaction de Louis de Funès. Qu'est-ce qu'il a fait après?
Ben écoutez, la réaction de Funès, d'abord, une fois que j'ai joué le thème à Gérard Rouri, qui était un top de sa carrière, il me dit chose assez étrange, il faut qu'on montre le thème à Louis, il faut qu'il écoute aussi. On montait jamais les thèmes, les metteurs en scène, ils les montent pas aux acteurs, tout ça. Mais là, la position de Funès dans ce film était telle qu'il fallait aller la montrer à De Funès, que m'a fait encore plus peur que de la montrer à Gérard Rouri, parce que De Funès était un musicien. Il était pianiste de bar à l'origine. Donc, moi, aller jouer la musique sur le tournage avec un piano qu'on a alloué, qu'on a mis au milieu de la scène, pour que De Funès écoute, ça me tétanisait un peu, mais j'étais obligé de le faire. Et je l'ai faite, et De Funès était complètement survolté, et il a beaucoup, beaucoup aimé ça. Et après, on a eu une longue, d'abord un long travail, puisque pour faire cette danse, ça, il fallait répéter, il fallait que, avec le chorégraphe et tout ça, pendant un mois, il venait chez moi et on travaillait chaque pas, chaque chose. Donc, il était très sérieux, très studieux, jamais drôle. Ouais, je n'ai découvert la drôlerie de la scène avec De Funès qu'au moment du tournage. Parce qu'avant, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer pendant 3 minutes? Il va faire des pas comme ça. Et puis, tout d'un coup, au moment de la scène, ça a été, il a improvisé créer des choses, c'était extraordinaire.
Et c'était génial. Et De Funès, d'ailleurs, ouais. vous enverra une lettre manuscrite pour vous remercier de la qualité de cette composition de la danse acidique de Rabbi Jacob Vladimir.
Que vous avez une culture terrible, je vous remercie. Vous êtes renseigné, vous
avez préparé un petit peu l'émission, ouais. Voilà, ouais. On va dire ça comme ça.
On est curieux.
Vladimir Cosma est notre invité sur RTL, mais au fait, comment devient-on un compositeur à succès? On vous raconte l'histoire d'un petit garçon conçu à Paris et né en Roumanie.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. RTL.
Nous sommes curieux et chanceux puisque nous passons la soirée avec Vladimir Cosma, le compositeur, l'homme des films à succès, Alexandre le Bienheureux, Le Dîner de Con, La Boum, Rabbi Jacob et tant d'autres. Vladimir, on va continuer de parler des films que vous avez, des musiques de films que vous avez écrites, créées pour ces films. Et puis du concert aussi que vous donnez les 24 et 25 octobre prochains au Grand Rex à Paris. Mais avant, on aimerait remonter quelques dizaines d'années en arrière, 1939. Vous êtes conçu à Paris. Vous auriez pu naître d'ailleurs à Paris.
Absolument.
Mais finalement, ouais. Vous naissez en Roumanie. Pourquoi ?
Parce que mon père et ma mère qui voulaient vivre à Paris, mon père a fait son lycée à Janson de Sailly à Paris. Il a fait le conservatoire de musique et il vivait ici, il voulait vivre ici. Il a dû revenir en Roumanie à Bucarest puisque son père était mort. Donc il est venu pour l'enterrement de son père, c'était fin 39. La guerre a éclaté après, il n'a plus revenir. Les frontières ont été fermées et à la fin de la guerre, c'était le communisme qui est arrivé en Roumanie, le rideau de fer, donc il était obligé de rester en Roumanie. Il a fait une très belle carrière en Roumanie comme directeur musical de l'Orchestre National de Disques de Bucarest.
Donc c'est une histoire de famille, la musique, Vladimir Cosma ?
Absolument, c'est une histoire de famille. D'ailleurs, dans la plupart des cas, ce sont des histoires de famille, puisque la musique, il faut la commencer très tôt. Ouais, c'est de préférence, il faut la commencer avant 7 ans, 6 ans. Le plus tôt, c'est le mieux.
C'était votre cas ?
Oui, c'est mon cas. C'est mon cas puisque je l'ai commencé tôt. J'ai commencé avec le violon et à 8 ans, je donnais déjà mes premiers concerts de violon accompagnés par mon père au piano.
C'est amusant, le violon, c'est une histoire de mètre carré quand même, hein, à la base. Pourquoi vous choisissez le violon ?
Mais le violon, j'ai pas choisi mon violon parce que d'une punition, vous voyez, de commencer avec le violon, c'est très dur avant de sortir un son harmonieux. Ça passe des années et des années. Mais on était dans une petite chambre, nous tous, il n'y avait pas la place d'un piano. Donc, mes parents m'ont amené un violon en attendant le jour où le piano arrivera. C'était vers les 13-14 ans. Mais entre-temps, j'étais devenu violoniste et j'avais commencé à...
Très doué
à,
violoniste.
Oui, enfin bon. Oui, doué.
La modestie de Vladimir Cosma.
Et commencer à rêver de la composition, même à travailler la composition, parce qu'en fait, j'ai toujours pensé à devenir compositeur. Depuis l'âge de 8 ans où j'ai découvert une œuvre qui m'a touché énormément, c'était la Scheherazade de Rimsky-Korsakov, qui tout d'un coup, c'était tellement coloré, tellement beau, presque impressionniste. Je me suis dit, voilà, c'est ça ce qui m'intéresse.
Et alors, pour qui vous avez composé votre première musique, Vladimir Cosma ?
Ben, j'ai composé mes premières musiques pour l'orchestre de mon père, puisque je vous dis, il avait l'Orchestre National de Disques. Et j'ai écrit un soir, je me rappelle, je lui ai laissé sous ma porte de la chambre une partition, parce que j'avais honte de lui dire, et je lui ai demandé d'essayer avec son orchestre. Et l'effet, ça a été formidable, il m'a appelé, tous les musiciens m'ont appelé. Donc ça a été le début de mes tentatives. Et quand je vous parle de famille de musiciens, que ouais, tous ces incidents vous aident. Quelqu'un qui apprend la musique uniquement théoriquement, sans
conservatoire
sans pouvoir la jouer, tout ça, ça d'ailleurs c'est ça ce qui explique que dans les familles de grands compositeurs, vous voyez beaucoup de musiciens, Mozart, son père, tout ça, dans Bach, vous avez tous les branches de la famille sont des musiciens, et Vivaldi, etc.
Finalement, la famille Cosma réussira à venir en France ?
Oui.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 22 ans. Mon père m'a toujours élevé dans le culte de la France puisqu'il voulait, lui, revenir et rêver. Il a connu le Paris des années 30, le début du jazz, tout ça. Donc, il me parlait toujours de ça. Et il a réussi à organiser en secret notre départ de Roumanie. Donc, on est arrivé quand j'avais 22 ans.
Voilà, et ça, ce sera le début après d'une carrière exceptionnelle en France.
Vladimir Cosma sur RTL nous raconte ses plus belles musiques de films. Restez avec nous sur RTL, on n'a pas fini.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut. Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Il a écrit les bandes originales de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie en fait. Vladimir Cosma est avec nous ce soir, à l'occasion notamment d'une série de concerts exceptionnels à Paris, au Grand Rex, les 24 et 25 octobre prochains. Vladimir, tous les compositeurs de BO, de films, ne font pas des concerts de leur musique. Pourquoi vous, vous y tenez particulièrement ?
Écoutez, je tiens particulièrement parce que je pense que la musique de film n'a pas sa place uniquement dans le film. Elle naît grâce au film, comme la musique de ballet, les musiques, le boléro de Ravel, il est dû à une commande du ballet, mais c'est pas pour autant qu'elle vit uniquement au moment du ballet ou les musiques de Bach qui ont été écrites pour des suites de danse ou pour l'église. Bon, elles sont jouées en dehors. Donc pour moi, une vraie musique de film, c'est une musique qui sert le film, mais après qui s'envole, qui vit à travers la radio, la télévision et le concert. Le concert me semble très très important.
Vladimir Cosma, on a un auditeur qui vient de nous appeler. Il y a une question à vous poser. Bonsoir Vincent.
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Vincent, vous aviez une question pour Vladimir Cosma ?
Oui, écoutez, je suis un fan inconditionnel de Vladimir Cosma, je voulais le lui dire, et je voulais dire aussi que j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de ses derniers concerts, et je trouvais que son présentateur sur scène était un peu moyen, et que je pense que...
C'est Vincent Perrault son présentateur, non ? Mais vous avez masqué.
Ah bon,
est-ce que vous avez reconnu Vladimir Cosma ?
Non, je ne l'ai pas reconnu et j'étais furieux là parce que je voulais dire à l'auditeur, mais écoutez, vous serez servi, c'est toujours Vincent Perrault et c'est le meilleur. Bon.
Bonsoir Vincent Perrault.
Bonsoir Sidonie, bonsoir Thomas, bonsoir Vladimir.
Passionné de cinéma, passionné de musique de film et vous êtes aussi le directeur artistique des concerts de Vladimir Cosma.
Oh non, attendez, n'exagérons rien. Non,
vous êtes propulsé un peu vite.
J'ai surtout la chance de faire partie du cercle d'amis très étroit de Vladimir depuis longtemps. Oula, longtemps hein,
bien maintenant. Avant les concerts.
Jusqu'au jour où un jour, effectivement, Vladimir m'a demandé de présenter un concert. On a fait ensemble le Châtelet, on a fait déjà le Grand Rex, on est allé à l'étranger en tournée. Je m'occupe aussi de différentes petites choses sur les projections d'images, d'affiches, de
absolument.
Photos qui sont dans les concerts. Parce et nous dialoguons aussi souvent de l'ordre des morceaux, des différentes choses, des choix. Et ça me fait plaisir de collaborer avec lui. Mais surtout, moi, je veux dire, mon grand privilège en tant que... Et là, je reviens à ce que je vous disais au début. Je suis vraiment un fan inconditionnel de Vladimir depuis longtemps, avant même de penser que je pourrais faire partie de ses amis. C'est que je me régale parce que c'est toujours un moment très privilégié que de pouvoir assister aux répétitions.
Mais justement, c'est comment, Vincent, un concert de Vladimir Cosma, ça ressemble à quoi ?
Ah ben, c'est une grande fête. C'est une grande fête de la musique de film et de la musique tout court, parce que non seulement on redécouvre des morceaux qu'on connaissait déjà ou qu'on croyait connaître, mais Vladimir fait toujours des arrangements spéciaux avec des instruments spéciaux. Il y a des moments de jazz qui swingent l'enfer, il y a des moments de pure symphonie où là on est le frisson vous gagne, il y a des chanteurs, des amis, des invités qui viennent. C'est un grand concert vivant et extrêmement réjouissant.
Vous voyez pourquoi je le prends comme présentateur.
Il est formidable.
Mais je vous assure que c'est la vérité, c'est d'autant plus facile à dire que c'est vrai.
Ouais. Et Vincent Perrault, Vladimir Cosma, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude vraiment en France d'aller assister à un concert de musique de film.
Mais vous savez, d'abord, dans mon idée, la musique de film, pour qu'elle soit jouée en concert, il faut complètement la réécrire. Parce que dans le cadre des films, vous savez, la musique intervient une minute vingt, elle n'est pas développée parce que elle sert le film. Sa plus grande part, c'est au moment des génériques où parfois on en a pour deux minutes ou deux minutes. Mais là, il faut construire, il faut faire des pièces qui durent six minutes. Et ça implique une réécriture totale. Et cette réécriture ne doit pas s'éloigner non plus de l'esprit de la musique du film, parce que les gens viennent pour retrouver quelque chose qu'ils ont déjà vu. Donc c'est une réécriture importante. Sinon, si vous jouez la musique de film comme des extraits de film, c'est ennuyeux, parce qu'il manquera l'image, il manquera le texte, il manquera tout ça. Alors que dans mes concerts, il n'y a pas d'image. Il y a uniquement...
celle qu'on se crée.
Voilà, le public peut s'imaginer ce qu'il veut, il se souvient des films et tout ça. Nous faisons une présentation dans laquelle vous avez au début des morceaux l'affiche du film qui donne un peu le parfum, le titre, c'est comme un programme. Vous avez le titre, etc., l'acteur et tout. Et ensuite, il y a quelques photos qui viennent pendant les morceaux.
Alors justement, Vincent
Choisi par Vincent.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a au programme des deux concerts 24-25 octobre au Grand Rex?
Ah, écoutez, il y a évidemment les grands incontournables de Vladimir. On n'imagine pas un concert sans Le Grand Blond avec une chaussure noire, sans La Septième Cible, sans Reality, c'est une évidence. Et puis, à chaque nouveau concert, il y a des nouvelles musiques que Vladimir sort de ses cartons. Cette année, il y aura pour la première fois le thème de l'inspecteur Labavure, vous voyez, sur scène. Je veux pas trop en dire, mais il y aura une version du Grand Blond avec une chaussure noire qui ravira les fans, parce qu'ils l'entendront pour la première fois comme ils vont l'entendre. Il y aura la participation de Natacha Saint-Pierre aussi, qui était sur RTL tout cet été, et qui va amener sa voix et beaucoup de choses. Mais vous savez, il faut venir en confiance, se laisser porter et se balader dans ce cinéma français qu'on adore par le biais de la musique de Vladimir. C'est une soirée exceptionnelle. C'est un orchestre symphonique, il y a 70 choristes sur scène, un groupe de jazz.
Et c'est au Grand Rex.
Vraiment, on se régale.
À Paris,
un groupe
24,
de jazz
25.
Balkanique, ouais, c'est plutôt world music que jazz. Ouais, c'est un mélange, il y a des instruments particulier, un cymbalum, il y a un harmonica diatonique.
Allez, croyez-moi, ça swing.
Ouais.
À découvrir 24-25 octobre prochain au Grand Rex.
Et il y aura des auditeurs d'RTL qui y seront. Et si je puis vous dire une dernière chose, c'est que Vladimir est un des très rares compositeurs à la fin de ses concerts à tenir à rencontrer le public. Et je le sais parce que j'y vais avec lui pendant trois quarts d'heure, une heure parfois. Nous dédicaçons nos livres, Vladimir dédicace ses disques et dialogue, bavarde avec son public. Ils ne sont pas nombreux à le faire, alors je tenais à le préciser.
Mais un super livre d'ailleurs qu'on peut venir se faire dédicacer lors du 24 et 25 octobre au Grand Rex à Paris, c'est Vladimir Kosma comme au cinéma, ça vous dit quelque chose, Vincent Perrault?
Ah ben, ça me rappelle, oui, j'ai interviewé pendant 61 heures Vladimir pour
ben voilà. Et ça nous a bien servi à préparer cet entretien. Merci beaucoup, merci Vincent, à très vite sur RTL.
Bonsoir.
Salut, à bientôt Vincent.
À bientôt Vladimir
Kosma. La musique de film, c'est un peu la musique classique des 20 et 21e siècles en fait.
Exactement, c'est-à-dire que en fait, comme il y a très très peu de musique dite classique symphonique qui est entrée dans le répertoire et qu'on joue tout le temps à satiété les symphonies de Beethoven ou de Mozart et tout ça, évidemment il y a Ravel et Debussy, mais dans les dernières 50 ans ou 100 ans, il y a très très peu d'œuvres qui sont vraiment entrées. Il y a Prokofiev, il y a Shostakovich, donc il y a une place dans l'esprit des jeunes et des gens de quasi musique symphonique qui a été prise par une certaine musique de film, de cinéma.
Alors votre histoire, Vladimir Kosma, c'est aussi une histoire d'amitié avec des réalisateurs, avec des metteurs en scène, grâce à eux d'immenses succès, notamment Le Grand Blond avec une chaussure noire, La Flûte de Pan, forcément. Magique, parce que en quelques secondes, quelques mesures, on a tout de suite identifié la musique, identifié le film. C'est ce que le réalisateur Yves Robert vous avait demandé?
Non, il m'a pas demandé ça du tout. C'était dans le scénario, si vous voulez savoir, c'était marqué sur l'apparition du Pierre Richard, musique genre James Bond. Vous voyez,
oui, effectivement, c'est différent là.
Il voulait personnifier l'arrivée de Pierre Richard, pour montrer que c'est un espion, etc. Et moi, je voulais trouver une idée originale et pas faire un pastiche de quelque chose. Donc, je me suis dit, finalement, un espion n'est pas forcément James Bondien ou anglo-saxon, ça peut être un espion qui vient du froid. d'où de Russie, de Roumanie, tout ça, d'où la couleur de la flûte de Pan et du cymbalum. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un du public pense au pourquoi de la flûte de Pan, etc. Mais c'est ça la démarche intellectuelle, si je peux dire, de la flûte de Pan et tout ça. Maintenant, si
vous voulez, ça vous a demandé, pardon, je vous interromps, beaucoup de temps de composer cette musique-là ?
Beaucoup, des mois, parce que, en fait, j'avais commencé par un autre thème que Yves Robert avait écouté, il avait beaucoup aimé, et il avait fait tourner les acteurs sur un autre thème. Et je pensais que c'était pas le bon thème, que c'était pas vraiment ce qu'il fallait pour ça, pour la flûte de Pan, et je cherchais, je trouvais pas, jusqu'à un jour où je rentre chez moi en taxi et tout d'un coup, il y a les notes qui me viennent en tête. Pam, 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 pam. Et je me suis dit, ouais, je tiens le thème. Je rentre chez moi.
C'est génial.
En trois minutes, c'était fini après six mois de tourner autour. Et voilà comment j'ai. C'est venu.
Les moyens de transport sont importants dans votre création.
Voilà.
Cosma, vous en parlez beaucoup. La voiture, le train.
Voilà. Bien sûr.
Vous travaillez sur une nouvelle musique de film ?
Oui, je travaille, on me propose, je viens de finir deux films là, je travaille avec un jeune metteur en scène belge sur un film où pas seulement j'écris la musique, mais je joue mon propre rôle dans le film, voilà. Donc ça c'est une chose, d'autre part on vient de me proposer un autre film, deux films même que je vais certainement faire. J'en fais moins que dans la parce que, si vous voulez, la musique de cinéma a beaucoup évolué. Il y a de moins en moins de musique originale dans les films. On prend des musiques préexistantes, des disques, des choses comme ça. Ce qui n'est pas, ça me gêne pas particulièrement, puisqu'on achète mes musiques, vous voyez.
On aura un immense plaisir donc à écouter encore des musiques de films créées par vous, Vladimir Cosma. Merci infiniment d'être venu dans La Curiosité est un vilain défaut. On ira vous écouter au Grand Rex, évidemment, à Paris, les 24 et 25 octobre prochains.
C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup.
Merci Thomas, merci Sidonie, merci Gérald.
Gérald Chalon, notre réalisateur.
Vous m'avez gâté là.
Toute l'équipe qui a illustré magnifiquement.
On a passé un super moment. Ouais. Merci beaucoup.
Voilà, mais je connais pas tous les noms. Sinon, on fait.
Vous êtes un peu chez vous quand même. Vous en avez raconté.
Oui, mais on peut faire une émission pour annoncer tout le monde. Il faut prolonger de 5 minutes.
Allez, on va vite.
On se retrouve.
Demain, c'est du foot.
Allez, on se retrouve mercredi. Au revoir, Thomas, avec un programme bien chargé.
Oui.
Vous écoutez RTL.